France Culture.
Quentin Lafay, à voix nue.
Nicolas Sédoux, président de Gaumont.
Aujourd'hui, deuxième épisode, le visage de Gaumont. Bonjour Nicolas Sédoux.
Bonjour.
Et merci encore une fois de nous accueillir à Gaumont. On poursuit cet entretien. On va se concentrer aujourd'hui sur Gaumont, ou la Gaumont, en tout cas sur l'entreprise que vous avez la charge de présider. Vous reprenez cette entreprise en 1974, mais avant cela, je voudrais quand même qu'on dise un mot de cinéma, parce qu'on parle du cinéma comme un secteur économique. Certains même disent, d'une façon un peu vulgaire parfois, ils évoquent une industrie, l'industrie du cinéma. Vous, quel est votre rapport encore aujourd'hui au cinéma? Est-ce que vous avez un rapport de spectateur, ou pour vous c'est un bien, la petite pièce justement d'une industrie?
Alors d'abord, vous me remerciez, mais c'est plutôt moi qui vous remercie de m'accueillir. Faut pas se tromper. Alors vous posez une bonne question. Ce dont je suis sûr, c'est que le cinéma n'est pas une industrie. Définition d'une industrie, c'est de correspondre à des besoins. Je disais dans le journal, là, le lancement du nouvel Airbus, on cherche à consommer moins d'énergie, à accueillir plus de passagers. Il y a des critères à remplir. Simple. Nous, quel est notre critère ? C'est d'essayer de faire en sorte que des hommes et des femmes, je dirais de 5 à 95 ans, et pourquoi pas d'ailleurs se limiter à 95, à 105 ans, aient envie d'aller voir un film, et donc dans leur diversité. Chacun d'entre nous n'a pas les mêmes goûts, et je dirais tant mieux. Puis de temps en temps, il y a un film qui attire un très grand nombre de spectateurs, un autre film qui en attire beaucoup moins. Et je crois que le grand cinéma, le vrai cinéma, c'est King Kong. C'est pas King Kong 2. Et a fortiori pas, je ne sais quoi, numéro 128. Le cinéma, c'est faire découvrir des nouveaux personnages ou des nouveaux rapports entre les personnages. Et c'est correspondre à un désir qui n'a pas été exprimé. On ne fait pas un film en faisant une étude de marché. L'étude de marché, je parlais d'un avion, c'est la même chose pour une voiture. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'industrie, c'est, au fond, le grand inventeur de l'industrie moderne, c'est Henry Ford. C'est la production en série. C'est exactement la négation absolue du cinéma. Et dans la production en série, ça veut dire que ce sont les mêmes équipes, dans le même lieu, pendant assez longtemps. Nous, ce sont des équipes différentes, dans des lieux différents, pendant un temps très limité. Alors, il y a un point qui, malheureusement, se rapproche de l'industrie. C'est les moyens financiers. Vos auditeurs, de temps en temps, lisent dans un journal, bah, le prix moyen d'un film français, il s'exprime en millions d'euros. Et ça, c'est donc l'art le plus bridé. Le seul art libre, c'est la littérature. Vous êtes là avec une pointe bic, des feuilles de papier, et puis après ça, vous aurez la chance ou la malchance de ne pas avoir un éditeur. Mais le livre, il existe quand il a été écrit. Le film, tant qu'il n'a pas été tourné, il n'existe pas. Nous avons besoin de moyens financiers tout à fait significatifs, et c'est la partie industrielle du cinéma, mais ça n'en fait pas une industrie pour autant. André Malraux l'a qualifié d'art, bravo. Par ailleurs, c'était une industrie. Non, par ailleurs, ce n'est toujours pas une industrie. Ça reste un art, et c'est un art qui a cette chance inouïe, c'est d'englober les six autres. Vous pouvez pas avoir un film où il n'y ait pas d'architecture, il y en a un petit peu. Les arts de la scène, bah, c'est évident, on parle d'ailleurs de mise en scène. Et alors, ne parlons pas de la musique qui a toujours accompagné le cinéma. Certains pensent que, d'ailleurs je préfère l'expression américaine « non-speaking film » à l'expression « film muet ». Il est muet au sens de la parole, mais dans une grande salle de cinéma, le Gaumont Palace, pour ne pas le citer, qui était la plus grande salle de cinéma du monde. C'était un orchestre symphonique de 100 musiciens. Et c'est le directeur du Gaumont Palace qui composait, il s'inspirait notamment à l'époque beaucoup d'Honegger et d'Eric Satie, et pour les salles plus restreintes de capacité, eh bien, il envoyait des partitions qui étaient pour trompette, pour violon, pour piano, selon les cas. Et puis alors, ne parlons pas de la littérature. Voilà, Méliès le premier, Jules Verne avec Le Voyage dans la Lune. Et sinon, la littérature est évidemment formidable source pour un certain nombre de films. Je ne sais pas combien il y a de versions des Trois Mousquetaires. Je crois que c'est le livre qui a été le plus tiré. Je crois que c'est aux alentours de 200. Et donc, nous grappillons. Alors, j'allais dire nous pillons. Grappillons sûrement pas. Pillons sûrement pas non plus. D'abord parce que le droit d'auteur patrimonial s'éteint au bout d'un certain temps, à la louche une centaine d'années, mais le droit d'auteur moral ne s'éteint jamais. Évidemment, pour vos auditeurs, la plupart d'entre eux n'étaient pas nés, mais quand Roger Vadim a tourné Les Liaisons dangereuses, eh bien, après un procès, il a été obligé de les appeler Les Liaisons dangereuses 1960.
Le cinéma, donc on l'a bien compris, artisanat également, en tout cas certainement pas une pratique industrielle. Et pourtant, vous reprenez une entreprise de cinéma en 1974. Est-ce qu'à ce moment-là, lorsque vous débarquez, si je puis dire, à la tête de Gaumont, vous êtes attendu? En tout cas, est-ce que vous êtes bien accueilli dans cette entreprise?
Vous entendez un long silence. Je crois que le mot bien, je suis très, très, très mal vu.
Pourquoi?
Je suis très mal vu parce que j'arrive avec Jean-Pierre Assam, dont nous avons dit un mot dans l'émission précédente, qui a quelques propos sur ses collègues, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas des propos très amènes. Et donc, on pense que si je m'intéresse à Gaumont, c'est pour changer quelque chose. Alors, j'ai dit que le cinéma n'était pas une industrie, mais chez Gaumont, il y a deux activités à l'époque. Il y a les salles de cinéma et la production de films. Et paradoxalement, ce qui va le mieux, c'est la production de films. Vous avez à sa tête Alain Poiré, qui est chez Gaumont depuis 35 ans, et qui produit cette année-là, je ne vais pas les citer tous, mais des films aussi différents que La Gif, qui aura le prix Louis Deluc, qui révélera Isabelle Adjani, La Septième Compagnie, qui, je crois, alors par la suite, il y en aura deux autres, un des films qui, chaque fois qu'il passe à la télévision, attire le plus grand nombre de téléspectateurs. L'année précédente ou deux années auparavant, Le Grand Blond, qui donnera une suite, Le Retour du Grand Blond, un Pierre Richard absolument éblouissant. Et d'autre part, il y a un parc de salles. Alors à l'époque, quand je dis l'essentiel du parc de salles français, il y a malheureusement pas une statistique générale, mais je pense que 90% du parc français est fait de salles uniques. On commence à parler de complexe, quel mot affreux. Moi, je préfère multisalle, mais j'ai jamais réussi complexe et puis multiplexe. Et c'est tout ce qu'il ne fallait pas utiliser comme mot, mais c'est ainsi. Et les années 75 à, disons, 82, pour faire court, ça va être la multiplication donc des multisalles, transformant des grands bateaux aux trois quarts vides, en un ensemble de salles, alors de façon très simple. Ça veut dire que le grand film populaire, quand il attire beaucoup de monde, il est dans la grande salle, quand il en attire moins, dans une salle moyenne, et il termine dans la petite, et vous pouvez avoir dans le même lieu à la fois des films de grande audience et des films d'audience plus pointue, appelons-les films d'arrêt d'essai. Donc, il va y avoir une transformation complète du circuit, et puis il va y avoir un deuxième élément, c'est qu'à côté d'Alain Poiré, certainement un des plus grands producteurs français de grandes comédies populaires, Daniel Toscan du Plantier va couvrir un domaine qui n'était pas couvert chez Gaumont, qui est un domaine plus international, avec des réalisateurs allant de Joseph Losey à Federico Fellini, Dietmar Bergman, Aitor Escola, ou Vaïda pour aller un peu plus loin pour la Pologne, et Tarkovski pour aller vers l'Union soviétique. Donc Gaumont va avoir à ce moment-là une politique beaucoup plus ouverte pour couvrir, pour jamais dire l'ensemble de la cinématographie, ce serait bien pédant, mais enfin un volet plus large de la cinématographie. Alain Poiré reste là, continue à produire des comédies, fondamentalement des grandes comédies populaires françaises, et Daniel Toscan du Plantier innove totalement dans un secteur dont Gaumont est absent depuis très 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 longtemps.
Ce qui est aussi intéressant et marquant dans l'histoire de Gaumont à ce moment-là, et plus encore, j'allais dire, dans les années 80, c'est l'internationalisation de l'entreprise. Alors, vous vous tournez vers divers pays, nombreux, mais peut-être commençons par l'Italie. Pourquoi s'intéresser à l'Italie ? Vous évoquez une complémentarité entre la production de films en France et en Italie. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par là, nous la décrire, cette complémentarité ?
Si vous voulez, moi j'appartiens à une génération, Daniel Toscan-Duplantier aussi, nous avons fait du latin, que nous avons une petite idée de qui sont Virgile et Cicéron, les peintres du Quattrocento ou les architectes de la même époque, et une petite idée de qui sont Verdi et Puccini. Et que la complémentarité culturelle entre la France et l'Italie, elle se compte en plusieurs siècles, se compte même sur des millénaires. Moi, je m'estime être un enfant de la Rome antique. Quand je vois le pont du Gard, je pense évidemment à la Rome antique et réciproquement. À l'époque, tous les grands films italiens sont des coproductions françaises. Voilà. Prendre un des exemples les plus célèbres, mais c'est pas le seul, Le Guépard. Alain Delon est là parce qu'il représente le côté français. C'est un film totalement italien. Mais c'est une coproduction franco-italienne. Et c'est vrai d'un tiers des grands films français, vous voyez apparaître, je citais hier Fanfan la Tulipe, c'est un film français avec Gina Lollobrigida et la représentante de l'Italie. Je parlais de Pépone et Don Camillo, qui sont eux des années 50. Hein. Il y a un tissu culturel cinématographique très important. L'Italie, en 1974, c'est plus du double du nombre de spectateurs qui existent en France.
Deux fois plus de spectateurs en Italie.
Plus de deux fois plus. Il y en a, de mémoire, il y en a 175 millions ou 180 millions en France, et il doit y en avoir 370 en Italie. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que l'Italie, au cours des cinq années précédentes, voit sa fréquentation baisser à une vitesse terrifiante. Donc, si rien ne se passe, eh bien, la fréquentation va continuer à baisser. Il y a des films de qualité, mais les salles sont dans un état absolument déplorable. Donc, il faut transformer le parc de salles, ce qu'est en train de faire la France, c'est que, à l'époque, Gaumont accomplit à marche forcée, et d'autre part, solidifier les rapports entre le cinéma italien et la RAI. Comme en France, où l'ORTF a le monopole de la radio et de la télévision, en Italie, la RAI a le monopole de la télévision. Et c'est affreux à dire, mais nous allons échouer en Italie. Nous allons devenir, pendant quelque temps, la première société de cinéma en Italie. Nous allons échouer parce que nous n'arriverons pas, je n'arriverai pas, à convaincre les pouvoirs publics italiens, d'une part, que le multisalle est la seule solution pour faire en sorte que les spectateurs viennent et reviennent. Alors, le multisalle, c'est pas seulement le multisalle, c'est des salles de qualité, agréables, avec un personnel sympathique, etc., etc. C'est beaucoup d'éléments. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des salles de 1500 places dans lesquelles il y a 80 spectateurs. Bon, les 80 spectateurs, on peut pas les perdre, mais on peut faire mieux que les 80 spectateurs, et surtout avoir dans le même lieu une offre diversifiée qui fait qu'éventuellement quatre amis, ben, il y en a deux qui vont voir un film et les deux autres qui vont voir un autre film, et vont se retrouver à la sortie dans des lieux agréables. Donc, nous n'obtiendrons pas la possibilité de diviser les salles de la part des pouvoirs publics. Et d'autre part, il va se passer un phénomène tout à fait étrange, alors que la RAI a le monopole de la télévision, elle va autoriser M. Berlusconi à avoir des télévisions privées. Or, ces télévisions privées, qui au départ sont là uniquement pour lui permettre de mieux vendre des ensembles immobiliers. C'est pas, il n'a pas du tout à l'époque la puissance qu'il va acquérir par la suite jusqu'à devenir Premier ministre. Mais ça va complètement déstabiliser la RAI parce qu'il achète d'un côté des séries américaines à bas prix, mais qui sont quand même assez bien faites, elles sont à bas prix parce qu'elles sont totalement amorties aux États-Unis, et en soirée des films porno qui retiennent chez eux, je le regrette de le dire, une clientèle qui n'est pas négligeable.
Pourquoi vous en voulez, Nicolas Sédou, à Fellini ?
Alors, il faut être très précis, j'écris cette phrase, et inutile de vous dire que j'ai réfléchi en l'écrivant. Mais je commence par dire que l'homme est exquis, et que le réalisateur est probablement un des plus grands réalisateurs de son siècle. Je en veux parce que je pense que si Federico Fellini s'était battu pour ce dont je viens de parler, la défense du cinéma italien, il aurait gagné. Je fais une comparaison qui est peut-être exagérée, mais lors du désastre du Bataclan et de la réaction formidable de la population qui, quelques jours après, s'est réunie autour de la place de la Bastille, on a dit à ce moment-là que jamais il n'y avait eu autant de monde dans Paris depuis les obsèques de Victor Hugo. Et quelque part, je fais donc la comparaison entre Fellini à Rome et Victor Hugo à Paris. Fellini était reconnu comme un immense talent. Il aurait pris le problème du cinéma italien comme ses confrères français l'ont fait. Il y en a un qui est toujours vivant, qui est Costa Gavras. Nous avons perdu Bertrand Tavernier. Mais ce que je veux dire, c'est que le cinéma français s'est battu pour obtenir ce qu'il a obtenu. Et au-delà des réalisateurs et des auteurs, les comédiens, Belmondo s'est battu. Fellini, Mastroianni, entouré de Rosi, Scola, Antonioni, allant chez le Premier ministre, je vais vous dire, ils auraient obtenu quelque chose. Eh bien, ils ne se sont pas battus, et c'est celui qui me semble être l'emblème de cette génération, Fellini, auquel je dis que je lui en veux, parce que je pensais qu'il avait compris ce que je lui disais. Je l'ai sûrement pas assez dit, mais je pense que si je l'avais plus dit, je n'aurais pas eu plus de succès.
On tourne le regard vers l'Ouest maintenant et même au-delà de l'Atlantique avec vous, Nicolas Sédoux. Comment est-ce que Gaumont se développe aux États-Unis? Qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce que vous allez faire sur le marché américain?
C'est très simple. Personne ne veut, à part un tout petit distributeur assez grand escroc, de cousin-cousine. Donc, on a un film qui n'attire pas 50 millions d'Américains, mais il attire plus d'un million d'Américains. Ce qu'a plein de mes amis résidents à New York à l'époque depuis 20 ans, voilà, c'est un joli petit film français, c'est pas autant d'emporte-le-vent. Et là, on n'arrive pas à faire remonter les dollars qui nous sont dus. C'est jamais bon signe quand il faut avoir recours aux avocats, qu'il faut menacer, que sais-je. Bon, donc un certain nombre de voyages, et là on se dit que les structures américaines telles qu'elles existent sont pas adéquates. Et vous avez une société qui est Universal à l'époque, qui a lancé une branche qui est Universal Classique, qui trouve son public, voilà. Et nous pensons qu'il n'y a pas de raison que les films que nous produisons n'aient pas une meilleure audience aux États-Unis. Eh bien, le fait est que nous n'avons pas eu d'autres cousins-cousines. Et que donc, les Américains, comme les autres, y choisissent. On a travaillé avec des indépendants, on a travaillé avec Columbia pendant bon nombre d'années, et on espérait évidemment des coups européens et des succès américains, c'était plutôt des coups américains et des succès européens, mais ça n'a pas été le désastre d'Italie tout de même. D'abord parce que les films que nous avons sortis avec Columbia sont tous passés sur le câble et ont été un peu plus vus que si nous n'avions pas eu d'associés. Mais nous avons arrêté d'avoir une filiale cinéma aux États-Unis.
Quel rapport dans ces années, Nicolas Sédoux, dans ces années 70-80 avec le cinéma venu du RSS? On connaît sa vitalité, son dynamisme, sa relative inventivité aussi. Est-ce que Gaumont entretient des liens avec le marché de l'URSS?
On a tout essayé, et donc on a également essayé l'URSS. L'URSS, c'est pas la Russie d'aujourd'hui, elle couvre l'Ukraine et un certain nombre d'autres pays. C'est 170 millions d'habitants, et on estime que la fréquentation est de 4 milliards de spectateurs. Que, évidemment, les films qui sont le plus vus sont les films soviétiques, notamment Un guerre et paix magistral de Bondarchuk, mais Les Fantômas, c'est Alain Poiret qui en parle, puisque c'est lui qui suivait ça, j'étais pas encore chez Gaumont à l'époque, c'est 60 millions de spectateurs. Pourquoi? Parce que dans un pays où tout est interdit, vous avez tout d'un coup un Louis de Funès, on comprend que le grand public soviétique ait été séduit, Et nous avons eu un certain nombre de films comme ça qui attiraient plus de 10 millions de spectateurs en Union soviétique. Et les soviétiques, de toute façon, ils payaient toujours. Quand vous avez un seul acheteur, il vous dit c'est 100 000 francs. Bon, vous trouvez que c'est ridicule. Mais c'est 100 000 francs ou rien. Donc, à un moment donné, vous obtenez peut-être 120 000 francs et puis la négociation est terminée. Alors, les soviétiques se plaignaient que leurs films soient mal exposés en France, ce qui était tout à fait le cas. Et j'avais l'idée, on avait un cinéma qui était parfait état, qui était sur l'avenue Bosquet à Paris. Alors, pourquoi il était en parfait état? Parce qu'il était très peu fréquenté. Et donc, je leur dis, écoutez, moi, je suis prêt à avoir un cinéma que nous gérons pour passer vos films. Et puis, 2 ans se passent, et ils rachètent un cinéma à rue de Rennes, qu'ils rebaptisent. Il s'appelait l'Arlequin, il a été baptisé ainsi par Jacques Tati, qui en avait été le propriétaire à un moment donné, il l'appelle le Cosmos. Et c'était fascinant parce que vous franchissiez le seuil du cinéma, vous aviez l'impression d'être en Union soviétique. La caissière, l'impression que c'était un agent double. Là où il fallait, je dis n'importe quoi, une lampe de 100 watts, ils avaient mis une 40 watts. Alors, la programmation était tout à fait intéressante. J'ai revu les chevaux de feu de Pradjanov, et donc je leur ai dit, écoutez, c'est que vous me preniez mes idées, les idées sont pas brevetables, ça c'est pas très grave. Mais qu'en revanche, vous gériez ça comme ça, vous n'aurez pas plus de spectateurs qu'avant. Alors il y avait une discussion formidable, il disait, mais pourquoi Cannes sélectionne Tarkovski et pas Bondarchuk? Ben, je dis, écoutez, je n'y peux rien, et ça, ils étaient convaincus que le président de Gaumont faisait la sélection de Cannes. Pas une idée très précise de ce qu'est une démocratie.
Je voudrais revenir, Nicolas Sédoux, sur une décennie que vous qualifiez de souffre entre 1982 et 1992. Une décennie dramatique presque pour le cinéma français en général, pour Gaumont en particulier. Je donne juste 2 chiffres. En 1982, il y a en France 202 millions de spectateurs. En 1992, 116 millions. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette décennie pour le cinéma français d'abord et pour Gaumont ensuite?
Cinéma français, c'est simple. C'est le bouleversement de ce qu'on appelait à l'époque le PAF, le paysage audiovisuel français, avec la création de Canal+, de la 5, de la 6 et la privatisation de la Une. Pour Gaumont, eh bien, c'est l'interdiction de rester en concubinage avec Pathé. Nous avons un groupement commun de programmation qui fait que les salles de Pathé et les salles de Gaumont sont complémentaires, complémentaires à Paris, mais complémentaires sur l'ensemble du territoire, et que nous avons le droit à une loi, la loi Langue, qui ne vise que Gaumont et Pathé, qui va nous obliger à nous éloigner l'un de l'autre. Il n'y a pas beaucoup de lois dans l'histoire qui ne visent que 2 sociétés, donc crise du cinéma en général et crise particulière pour Gaumont. Et donc Gaumont et Pathé se sont séparés quant à leur programmation, mais leur programmation signifiait que leur réseau était totalement complémentaire l'un de l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que, là, je vole un peu à travers les décennies, que des décennies plus tard, Gaumont et Pathé fusionneront, parce que leur circuit était totalement complémentaire l'un de l'autre, et que là, on nous sépare, et ça va obliger Gaumont à faire des efforts considérables pour se lancer, parce que ça va être le début, 93, le début du lancement des multiplexes, qui vont atteindre, si je ne dis pas de bêtises, leur apogée en termes de nombre d'ouvertures 10 ans plus tard. Et très mal compris par les politiques, puisque Philippe Douste-Blazy les qualifiera de porte-avions du cinéma américain, alors que le premier multisalle français qui est UGC Léal, c'est le cinéma que réclament le plus ceux qui produisent des films indépendants. Parce que, voilà, il y a d'un côté des grands films populaires et à côté des films plus pointus, dont certains, la plupart d'entre eux d'ailleurs, sont rares et essais. Donc, ce que nous avons réussi pendant cette période, ce que nous avons réussi, c'est une négociation intelligente avec Canal+. Canal+, tout le monde l'a oublié, mais André Rousselet a le soutien du président de la République, mais à l'opposition absolue du Premier ministre, qui est Laurent Fabius. Donc, c'est quand même une situation un peu complexe. Tout ça pour dire que plus de la moitié des spécialistes de l'audiovisuel, c'est-à-dire que quoi que ce soit, ce mot, pensent que Canal+ n'a aucune chance de réussir. Et André Rousselet veut des films récents pour attirer les abonnés éventuels. Alors, je vais faire partie activement de la négociation, je suis même à un moment donné le seul représentant du cinéma. Ben, je lui dis, si vous voulez des films, c'est très simple, il suffit de les payer. J'ai pas d'argent. Ben, j'ai dit, ça va être compliqué. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas des films récents. Et de ce dialogue de sourds va naître une bonne idée, qui est l'idée du pourcentage. Donc, Canal+, au moment de la première convention, s'engage à investir 25% dans le cinéma, dont la moitié dans les films français. Un peu plus tard, ce sont les films européens. Donc, si Canal+ échouait, bah, le cinéma ne pouvait pas reprocher à Canal+ de lui avoir volé ses spectateurs. Et si Canal+ réussissait, la production, même si l'exploitation avait un petit pourcentage, la production pourrait continuer à tourner. C'est ce qui s'est passé au moment où les grands multisalles sont arrivés. Eh bien, nous avons été capables de faire revenir les spectateurs dans les cinémas avec une production française qui avait continué à tourner. Et je cite ça, je suis un peu long sur ce sujet, parce que je pense que en 1960, vous regardez les cinémas en Europe, le cinéma français existe tout à fait, mais je ne suis pas sûr qu'en termes de variété, de diversité, j'aime pas le mot qualité parce que ça ne veut rien dire, mais le cinéma britannique et le cinéma italien ne soient pas à un niveau légèrement supérieur. D'ailleurs, quand je rachète Gaumont, j'entends quelqu'un me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être dans le cinéma italien. » On en a parlé précédemment. On voit ce qu'est devenu le cinéma italien. Qu'a fait le cinéma français ? Un, je l'ai dit précédemment, il s'est battu. Deux, il a été capable de créer avec la télévision, et après les télévisions, des accords de qualité. Moi, quand j'arrive, le rêve du cinéma, c'est une grève à TDF. Télévision, diffusion, c'est absolument fascinant, parce qu'effectivement, dès qu'il n'y avait plus d'émissions à la télévision, la fréquentation cinématographique remontait. Mais comme le premier succès d'audience, ça, vous êtes tous trop jeunes pour avoir vu ça, chaque année, à la TF1 disait qu'il avait eu, sur les 100 premières audiences, je ne sais pas quoi, 90 TF1, mais sur les 90 TF1, il y en avait 80 qui étaient des films, et les autres, c'était des matchs de foot. Bon, ce que nous avons réussi à faire, c'est des accords de qualité avec d'abord Canal+ et ensuite les autres chaînes de télévision, et on en parlera à un autre moment. Le sujet aujourd'hui, c'est de faire des accords de la même qualité avec les plateformes.
On s'intéressera justement demain au parc, aux salles de cinéma que vous avez déjà un peu évoquées aujourd'hui dans cet entretien. Merci Nicolas Seydoux.
Merci, à demain. À demain.
C'était À Voix Nue, Quentin l'a fait avec Nicolas Seydoux. Réalisation Manouchak Fachaï. Coordination Daphné Abgral. Prise de son Hervé Dubreuil. Vous pouvez retrouver cette série et toutes les émissions d'À Voix Nue sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.